Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Bonjour à toutes et à tous, très bonne semaine. Et oui, une nouvelle semaine qui redémarre à l'écoute de Sud Radio. Nous sommes le lundi 24 septembre avec vous entre 10h et midi, 0826 300 300. Si vous voulez nous parler des programmes de ce week-end, de ce que vous avez regardé, de ce qui vous a agacé, de ce qui vous a plu, dites-nous 0826 300 300. Gilles Gansman, bonjour.
Bonjour Valérie.
Journaliste, réalisateur, producteur. Et Rémi Pernelet, journaliste spécialiste des médias.
Bonjour Valérie.
Rémi.
Bonjour.
Alors, écoutez, aujourd'hui, on va s'intéresser à un scandale, celui du prix du foot à la télévision. Si on veut regarder le foot, ça devient un véritable luxe, 70 euros par mois. Si vous voulez tout voir, là aussi, vous pouvez réagir si vous en avez marre de ce racket. Est-ce qu'on peut parler de racket, d'ailleurs? Je ne sais pas, c'est peut-être un mot un peu fort. On va en débattre. Et puis, on recevra Julien Bugier, qui présentera deux soirées spéciales cette semaine sur France 2, Histoire d'une nation en particulier, demain soir, à regarder un documentaire, une série de documentaires sur ces immigrés qui ont fait la France. Et puis on va commencer avec les audiences, Rémi.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias, découvrons les audiences.
Alors, là, sur le... Non, on commence, oui, par
le carton du week-end. En fait, c'est pour le début de soirée de TF1 dimanche. 3 467 000 téléspectateurs pour 7 à 8, avec notamment une interview de Patrick Bruel. C'est 500 000 de plus que la semaine dernière. Ah ouais. Et un excellent score. Et une très grosse audience aussi pour le 20h de TF1 dimanche soir. 6 288 000 téléspectateurs, 28,3% de part de marché. Pour Anne-Claire Coudray, ouais, c'est 1 800 000 téléspectateurs d'avant sur Laurent Delahousse, c'est le record du week-end.
Comme quoi, quand on parle de locomotive, ça fonctionne.
Ouais, ouais, absolument.
Absolument. Bon, c'est toujours des bons scores le dimanche soir pour le JT de TF1.
Ensuite, le Gadin.
Le Gadin, c'est pour les grosses têtes sur France 2, samedi. Seulement 2 331 000 téléspectateurs, 13,9% de part de marché. C'est la troisième chaîne derrière TF1 et France 3. 100 000 de moins que la dernière diffusion des grosses têtes en février. 700 000 de moins qu'en décembre dernier. En fait, la formule télé des grosses têtes n'a jamais vraiment pris. D'ailleurs, en 2016, France 2 avait déjà arrêté les primes une fois. Donc, ils ont retenté. Bon, on ne dépasse pas les 2,3 millions, 2,4 millions, 2,5 millions.
Et c'était assez réussi, le grand concours des animateurs. J'ai jeté un œil et je trouve que Laurence Boccolini était très, très
bonne.
Elle
était super dedans. Ça a bien marché.
Comme si elle avait toujours animé cette émission.
Elle est
pro, très bien.
Relancé des choses.
La surprise.
Alors, la surprise, c'est la forte progression des terriens du dimanche. 767 000 téléspectateurs pour Thierry Ardisson hier, avec le professeur Kayat. 270 000 de plus que la semaine dernière. C'est un énorme effet Absatou, j'allais dire, qui a aussi touché le Bifor. Vous savez, juste avant les terriens du dimanche, l'audience du Bifor a presque doublé de 415 000 téléspectateurs hier, et alors que c'était un peu plus de 250 000 la semaine dernière. Donc, on va en parler tout à l'heure avec Gilles, mais effectivement, il y a eu,
on voulait voir si elle allait y revenir. Ensuite,
Je voulais débriefer les pronostics.
Oui, on s'est bien planté.
On avait parié sur la soirée de samedi. Valérie et Gilles, vous aviez misé sur le grand concours des animateurs sur TF1. Moi, sur les grosses têtes. Donc, en fait, vous avez très largement gagné. Puisque les grosses têtes n'est même pas deuxième.
7-1.
Allez, on...
Peut-être un petit point sur les horaires.
Notre combat avec Téléstar.
Donc, si vous voulez, tout le week-end, j'ai un peu tous les tableaux. Alors, tout le monde déborde. C'est-à-dire qu'on est à 21h10 pour TF1, vendredi, samedi, dimanche. France 2, 21h09, samedi, 21h06, 21h09, vendredi, 21h06, samedi, 21h09, dimanche. France 3, 21h07, le vendredi. M6 est à 21h09. C8, entre 21h09, 21h14. TMC, 21h20, le vendredi. Il y a quand même de bons élèves et on avait dit qu'on en parlerait. On en parle. France 3 a commencé à 21h samedi, à 21h01 dimanche. Ils avaient annoncé 21h. Ouais. Arte a commencé à 20h58 vendredi, 20h52 samedi et dimanche. Mmh. Et France 5 a commencé à 20h54 tous les jours. Donc, il y a de bons élèves, des gens qui respectent les horaires qu'ils annoncent pour la diffusion des chaînes.
Et comment vous faites, Rémi? Vous avez 15 écrans? Vous mettez vos enfants à contribution? Expliquez-moi comment vous faites pour regarder.
Je fais travailler les enfants.
Travailler les enfants. Voilà, donc on vous rappelle, pétition à signer sur le site de Téléstar et celui de Sud Radio, ça devrait arriver incessamment sous peu.
Oh,
allez, on va passer au zapping.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping.
Alors... Bon, bah ce matin, dans le grand matin Sud Radio, Cécile de Minibus et Patrick Roger recevaient Éric Zemmour. Évidemment, hier soir, dans les Terriens du Dimanche, justement sur le Bifort, sur C8, Thierry Ardisson et ses chroniqueurs sont revenus sur l'affaire et sur cette semaine Absatou. On ne peut pas dire qu'il y a eu une vraie... On peut pas dire que ses anciens camarades l'ont soutenu. Écoutez.
Où est Absatou ? Très mauvaise vanne. Raquel, vous avez vécu comment cette semaine ?
Avec beaucoup de tristesse, oui, en réalité, parce qu'on a beau annoncer que Zemmour et globalement l'extrême droite a comme objectif politique de diviser la société française et de nous pousser tous vers une guerre civile, et ben en fait, il a réussi, quoi. Ouais. En deux coups de cuillère à peau, le gars, il a désagrégé notre équipe. C'est ce qu'il veut faire pour toute la France, c'est pour ça qu'il est dangereux.
Gilles William Golnadel.
Oui, non, je n'arrive pas à considérer que c'est la seule faute de Zemmour. Je me suis engueulé avec lui.
Sur Pétain.
Sur Pétain et même sur l'histoire des prénoms. En vérité, c'est une querelle entre l'assimilation à laquelle il croit et l'intégration à laquelle je crois. C'était une querelle purement intellectuelle. En faire une affaire de racisme, je trouve ça assez stupide.
Natacha.
On s'est tous engueulés avec Zemmour, on lui a répondu, c'est tout. Et on peut répondre fermement, brutalement ou poliment, mais on répond. On est là pour ça, on est payé pour ça.
C'est
on
bien,
est payé pour avoir des arguments.
Bravo Nathalie.
Bon, bah, globalement, Absatou, t'étais pas à la hauteur, si je résume William.
Je sais pas qui a
Natacha
désagrégé
Polony.
L'équipe, si c'est Zemmour ou si c'est Absatou.
Reste c'est une bonne question.
Allez, ensuite...
Laurent Ruquier sur France 2 recevait dans N'est pas couché Kid Ismail, qui se revendique fils d'immigré noir et pédé. Alors évidemment, Charles Consigny en a profité pour tacler le DJ.
Quand vous dites fils d'immigré noir et pédé, etc., et que c'est difficile d'être noir, difficile d'être pédé, que vous êtes dans cette revendication-là, moi je suis juste un tout petit peu plus circonspect, parce que je pense qu'en réalité, les choses se sont... beaucoup changé ces derniers temps, et je pense que notamment dans les domaines de la mode, de la musique, de la télé, des médias, etc., aujourd'hui, en réalité, c'est presque plus facile de réussir quand on est fils d'immigrés noirs et pédés que quand on est fils de Français de souche, entre guillemets, blanc et hétérosexuel. Je pense que maintenant...
Moi, je trouve que c'est horrible ce que vous dites.
Moi aussi.
Je trouve ça, je trouve que c'est horrible.
Ou pas plus facile, mais il y a une bienveillance médiatique qui est une réalité.
Des propos beaucoup plus nuancés que la petite phrase qui a été extraite, un petit peu partout.
Mais bien sûr, et surtout que lui a précisé sur son Twitter, et c'est pour ça que je l'ai dit dans mon lancement, c'est que en fait, quand il a été chez Macron, il avait un t-shirt sur lequel était inscrit PD, fils d'immigré et noir. Et donc il réagissait à ce t-shirt en disant. Oui, tu mets ce t-shirt-là, mais...
Aujourd'hui, il y a plus de bienveillance dans les médias qu'auparavant. Maintenant, je comprends que la phrase puisse effectivement choquer quand elle est prise
Vous avez bien compris.
Donc, ça me fatigue, tout ça, vous ne pouvez pas buzz, savoir. Voilà. On va y revenir à 11h hein, sur ce buzz, Dès qu'il y a un con qui dit un truc, d'un seul coup, ça fait une polémique.
Ah bah, je vais vous en remettre une couche,
allez.
Madame expert.
Allez-y.
Je vous en remets un kilo, ça buzz. Yann Moix était enfin à Paris et présent pour le deuxième numéro des Terriens du samedi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le moins qu'on puisse dire, c'est que Yann Moix a tapé fort.
Si vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez que la faiblesse attise la haine, et vous savez très bien que dire que vous chiez dans votre froc alors que vous faites un métier qui devrait prendre en compte cette peur, la peur est humaine, et ça je ne vous reproche pas la peur, vous devriez l'intégrer. Et vous savez, il y a un truc qui m'a choqué. Dans l'affaire Benalla, qu'est-ce qui a choqué les gens ? Non pas les coups qu'il a portés. Ce qui a choqué les gens dans l'affaire Benalla, c'est qu'il ait porté ses coups sans être policier. Et cette anecdote dit tout. La police française est une des plus violentes d'Europe, et je trouve franchement... que venir vous victimiser à longueur d'émissions de télévision, non seulement vous ridiculise auprès de la population, mais vous ridiculise au carré auprès des populations que vous asseyez à longueur de journée par des humiliations, car vos cibles préférées, ce sont les pauvres et les milieux défavorisés. Et je suis moi-même, comme tous les Français, le plus souvent spectateurs du harcèlement que vous pratiquez sur des gens inoffensifs, 2-3 touristes japonais qui se sont mis en double file, un pauvre type qui ressemble à Michel Blanc et qui a pris un couloir de bus, parce qu'effectivement, la peur au ventre, vous n'avez pas les couilles d'aller dans les endroits dangereux.
Mmh. C'est bien parce que lui, il va aller en Corée du Nord enseigner le français, donc
là, évidemment, les flics, ils ont des évidemment, c'était un petit peu en extrême, et c'était la fin qui a évidemment choqué en disant que les policiers n'avaient pas de couilles. Résultat, ce matin, le syndicat d'Alliance Police dénonce évidemment, et je cite, un déshonneur pour les policiers, et il demande à chaque policier de France, d'outre-mer ou basé à l'étranger de signaler au CSA évidemment les propos de Yann Moix, qui de son côté a maintenu ses propos.
Super, oui. Ça va être instruit dans 3 mois, il y aura une décision dans 8 mois.
En fait, comme le disait Patrick Roger ce matin sur une radio, puisque cette phrase était évoquée, évidemment, lui, il est essentiellement par rapport à tout ce qu'il a écrit et ce qu'il a tourné sur les migrants. Et donc voilà, c'est ça son point de départ de raisonnement. Et donc du coup, il estime que les policiers ont été trop violents avec les migrants. Et donc du coup, ils sont trop violents partout et pas assez dans les banlieues. Enfin, c'est quand même honteux, je trouve.
Je suis pas sûr qu'il y ait eu le même mouvement qu'il y a eu pour Absatou que pour défendre les policiers.
Si, je pense que la population est assez
solidaire ça quand même des policiers. Assez scandaleux.
Et surtout, ce matin, il y a un policier qui expliquait qu'il l'avait reçu à Calais et qu'il avait reconnu qu'effectivement, il n'avait aucune preuve de ce qu'il avançait sur les violences policières contre les migrants. Donc, tout ça, c'est encore du buzz, faire parler, on prend la petite phrase.
Souvent,
voilà.
Les policiers sont des victimes d'actes terroristes. Ils interviennent, ils sont. Enfin, je veux dire, c'est honteux, quoi. Quand même.
On va voir comment réagit le CSA.
Ouais.
Bon, il y a eu quand même des sourires.
Et le CSA, donc, arbitre aujourd'hui des élégances. Voilà.
De savoir quel propos on doit tenir à la télé. Bon, il y a eu quand même des sourires ce week-end. Hein. Dans Les Grosses Têtes, par exemple, Chantal Latsou a été brute de décoffrage face à une Sheila, mais très interloquée. Écoutez bien la fin de ce son.
Et nous avons tous dans le cœur une chanson de Sheila. À laquelle, vous, Chantal?
Verse Vector X. Non, attends.
Je crois qu'elle veut dire Charlemagne et qu'elle confond avec France Gall.
Voilà. L'école est finie.
Mais ça revient de la faire, l'école est finie. Soyez plus original.
Comment ça va, bonjour. Si l'école est finie, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Mais
attends, ça fait 50 ans que je chante, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Sheila qui lui répond, ça fait 50 ans que je chante.
Il avait un beau plateau, Laurent Ruquier, samedi soir. Allez, on va passer à notre débat, le scandale du prix du foot à la télé. 70 euros si vous voulez tout voir, et ça risque encore de grimper. Appelez-nous 0826 300 300 si vous voulez réagir, si vous en avez marre de devoir payer, de prendre toujours un abonnement de plus pour voir les matchs qui vous intéressent. On attend vos réactions.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi, 10h-11h, les médias. Et on va parler d'un sujet assez agaçant et même scandaleux, le scandale du prix du foot à la télévision. Ça devient vraiment un loisir de plus en plus cher. Être amateur de foot, il faut être riche, hein, Rémi.
Oui, Valérie. Rappelez-vous, il y a moins d'un an, on se réjouissait de pouvoir voir un match de Ligue 1 en clair sur C8, PSG 3, et on recommençait à rêver de foot gratuit à la télé. Enfin bon, ceux qui comme Bruno et moi aiment le foot, évidemment. Je sais que c'est pas votre premier combat, Valérie, et que voir la télé encombrée de matchs de foot gratuits, ça ressemblerait plutôt à un cauchemar pour vous. Rassurez-vous, depuis la rentrée 2018, le cauchemar, c'est pour nous. Parce qu'en réalité, l'an dernier déjà, pour voir vraiment du foot à la télé, il fallait dépenser pas mal d'argent. Canal+, pour une partie de la Ligue 1 et de la Ligue 2, une partie de la Ligue des Champions, et puis Bein Sport pour l'autre partie de la Ligue 1 et de la Ligue 2, le reste de la Ligue des Champions, puis les championnats anglais, espagnol et allemand. La facture s'élevait à 40 euros environ par mois pour Canal, 15 pour Bein. Si on voulait vraiment pouvoir suivre les matchs du PSG en Ligue des Champions, par exemple, il fallait s'abonner aux deux, donc 55 euros environ, une somme.
Ouais.
Mais apparemment pas assez cher pour les diffuseurs, puisque depuis septembre, grand changement, pour la Ligue des Champions, il faut désormais s'abonner aux chaînes sport du groupe SFR. Parce que le groupe de Patrick Drahi a racheté les droits de la Champions League et de la Ligue Europa pour les 4 ans à venir, pour la modique somme d'1,4 milliard d'euros. C'est 2 fois plus cher que ce que payait auparavant Canal+, et Bein Sport réunis. Résultat, le championnat français est toujours sur Canal+, et Bein Sport, mais la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Première Ligue, c'est le championnat anglais, sont désormais sur RMC Sport, les chaînes du groupe SFR. Donc il faut payer 19 euros en plus des abonnements Canal et Bein. Ça fait un total de plus de 70 euros par mois. Ouais. Parce qu'évidemment, même s'ils ont perdu toutes les rencontres européennes, Canal+ et Bein n'ont pas baissé leur prix.
Ouais.
C'est une vraie révolution dans l'univers des droits sportifs, puisque SFR est un nouvel acteur dans ce domaine. Puis alors, le Méli-Mélo ouais, financier ouais, n'est pas fini, puisqu'un groupe espagnol, ouais, Mediasport, a raflé les droits de la Ligue 1 française pour les saisons prochaines à partir de 2020 jusqu'en 2024, pour un montant à nouveau record de 1,153 milliards d'euros, plus de 60% de plus par rapport à la période précédente. On ne connaît pas encore le montant des abonnements pour la saison 2020. Le président de Mediapro, Raume, je ne sais pas si je prononce bien, Bruno, a parlé d'une somme aux alentours de 25 euros, ce qui laisse sceptique beaucoup d'observateurs.
Ouais, 25 euros.
Beaucoup d'observateurs pensent que ce sera plus cher, on va en parler avec ouais, Bruno. En fait, les grands argentiers du foot français et européen devraient quand même se méfier d'une chose, à force de rivaliser d'avidité, de vouloir presser le porte-monnaie des téléspectateurs et de faire payer pour le moindre match, ils prennent le risque d'enlever de la visibilité à leurs épreuves et de voir le public se tourner vers autre chose. C'est arrivé à la Formule 1, par exemple.
Quand on aime le foot, on regarde le foot, non ?
Bah, il est vrai qu'avec la France championne du monde et l'engouement de la planète pour le football et ses stars réelles ou surestimées, il y a encore de la marge. Mmh. Mais malgré tout, le risque peut exister. Mmh. Le ras-le-bol de payer, bah, c'est partagé par tous.
Mmh. Alors, avec nous, Bruno Fraioli, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef, fondateur du site sportbusinessclub.com. Sport Business, ça porte bien son nom. Comment on en est arrivé là, déjà ? C'est complètement dingue. Ces prix sont astronomiques.
Bonjour.
Bonjour.
Ce sont des prix qui sont finalement dans la ligne du modèle économique, hein, des détenteurs de droits et des chaînes, payantes. Il faut simplement se dire que certaines compétitions peuvent être diffusées sur des chaînes gratuites, ont une économie vers une chaîne gratuite, parce que les détenteurs de droits, les organisateurs parient sur la visibilité, par exemple, des partenaires et des sponsors. Et puis d'autres, notamment Championnat de France de football, par exemple, qui sont des feuilletons. Il y a quand même 20 matchs toutes les semaines, hein, pendant 38 semaines. Ils ont une autre économie. Il y a un public qui est beaucoup plus restreint, qui est prêt à payer plus cher pour voir leur match.
Mais vous ne pensez pas, Bruno, qu'il y a eu une inflation des prix pour le téléspectateur ? D'ailleurs, la même chose dans les clubs, dans les stades. Les prix des places dans les stades ont flambé. On parle de plus de 150 euros pour aller voir un match d'une équipe comme le PSG, par exemple, 200 euros. Bon, c'est quand même dément. Et en Angleterre, ça s'est passé comme ça. Maintenant, voir les matchs en vrai, c'est inaccessible. Et puis, voir les matchs à la télé, ça devient inaccessible.
Bon, alors, je ne vous suis pas complètement, hein, Rémi. Pour voir les matchs, ça reste accessible. Bon, le Paris Saint-Germain est vraiment un cas à part. Hein. Ils ont une montée en gamme qui est assez impressionnante.
Ça coûte combien d'aller voir un match en stade de foot, c'est quoi ?
Au Paris Saint-Germain, oui. Si on n'a pas d'abonnement, c'est aux alentours de 60, 80, 100 euros la place. Donc effectivement, oui, c'est cher. Ouais. C'est combien une place pour aller voir un spectacle aussi à l'Accor Hotel Arena ou
C'est pas la même chose, vous pouvez pas comparer.
C'est un spectacle. C'est un spectacle pareil.
C'est un spectacle sportif.
Mais sur ces droits du foot qui sont envolés, jusqu'où ça va aller ? Je vous ai comment on en est arrivé là, c'est presque aussi jusqu'où on va aller, parce que les derniers chiffres que nous donne Rémi donnent le tournis.
Bah, c'est exactement le problème. Alors, j'ai pas fait le même calcul, Rémi. Pour moi, j'arrive à peu près pour avoir toute l'offre sportive aujourd'hui, c'est-à-dire Canal+, c'est-à-dire Bein Sport, c'est-à-dire Eurosport, là on arrive à un total de 43,90 €, en rajoutant la dernière offre de RMC Sport, si on est abonné à SFR Sport.
Voilà, j'ai parti du principe qu'on n'était pas abonné à SFR Sport. Donc là, parce qu'évidemment, le fait d'être obligé de s'abonner à Sport, à SFR en général, c'est un avantage concurrentiel.
Mais RMC Sport, je me suis trompé aussi, on est encore sur l'ancienne appellation. Bon, ça fait 44 euros quand même par mois. C'est vrai que c'est une somme.
C'est une somme. Alors, il y a un auditeur qui nous dit, Christophe nous dit, quand je pense qu'il suffirait de se priver de foot pendant une saison pour obliger les diffuseurs à avoir leur prix à la baisse. Est-ce que ça marcherait si personne ne regarde?
Je suis d'accord avec cet auditeur, c'est que les gens payent. C'est ça qui est
ce que disait Coluche. Hein,
oui,
si personne n'achetait les journaux.
Oui. Et donc, finalement, pour rebondir sur ce que dit notre auditeur, tout ça, c'est la part belle à pirater, en fait. ça ouvre vraiment la part belle au piratage.
Non, mais
j'en avais parlé dans une autre
évidemment,
émission.
La problématique là, qu'on a avec la Ligue des Champions, c'est qu'on part d'une feuille vierge et d'un abonnement en plus qu'il faut prendre. Et donc, il y a cette tentation d'aller sur les sites de piratage. Je ne sais pas si vous en avez fait.
Si, moi j'en ai fait.
Professionnellement.
Pour l'enquête de sur radio.
On ne va pas s'en vanter, mais effectivement, moi j'ai tenté le coup. Bon, ce n'est pas terrible. Il y a de la pub partout, pas forcément de la bonne publicité. La qualité n'est pas géniale. C'est dans une langue étrangère.
Mais c'est gratuit.
C'est pas terrible. Il faut vraiment avoir envie. Hein. Mais c'est pas le cadre. Ce que disait Rémi était important par rapport à l'arrivée de Mediapro. Aujourd'hui, je pense que le sport, je dirais, vaut le prix d'abonnement que l'on a. La problématique, ça va être l'arrivée de Mediapro. Effectivement, s'ils arrivent avec un tarif à 25 euros, comme ils le disent, d'abord, je ne connais pas trop le modèle économique, mais il faudra qu'ils aient quand même 40 millions d'abonnés pour arriver à peu près à l'équilibre. Mais là, ça va rajouter... On arrivera effectivement à 70 euros, c'est pas possible.
Non, mais je pense que c'est plus en fait, parce qu'il faut rajouter les abonnements. On est bien obligé d'avoir Internet. Donc, si vous
voulez,
si on
rajoute l'abonnement Internet.
La totalité, les gens en sont à payer plus de 150 euros pour pouvoir voir.
Enfin,
tout
un
le
abonnement
foot.
Internet.
C'est dingue.
Vous l'avez quoi qu'il arrive.
Vous l'avez, oui, mais ça
enfin,
rajoute.
Il faut compter le prix.
Ça rajoute, il faut compter le prix dans la dépense que vous faites, oui.
La tentation des détenteurs de droits, surtout là, dans les années qui viennent, ça va être surtout de se dire. Est-ce que nous, finalement, on n'est pas un média ? Est-ce qu'on va pas, on peut pas créer notre propre chaîne ? C'est ce que compte faire Mediapro avec une chaîne purement Ligue 1, mais ils peuvent pas le faire, il va falloir qu'ils rajoutent des choses. Mais c'est ce que font déjà, par exemple, la Formule 1. Avec ce qu'on appelle l'OTT, over the top, hein. C'est-à-dire on va chercher une application, on peut regarder la F1, l'UEFA réfléchit à ça, la NBA ça existe. Alors pourquoi pas après on aura 15 abonnements pour chaque.
C'est ça, c'est
une segmentation qui est assez problématique.
Merci Bruno Fraioli, restez avec nous, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio, on aura Julien Bugier qui sera en studio avec nous.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'invité du jour.
Et l'invité du jour, c'est Julien Bugier. Bonjour Julien.
Bonjour Valérie.
Merci d'être là, on est content. C'est la deuxième fois que vous venez dans l'émission. Cette année,
il y aura sans doute une troisième
parce que vous avez beaucoup, beaucoup d'actualités.
Je le note Valérie.
Voilà. Alors, il y a eu des petits changements depuis l'année dernière. Figurez-vous que je googlise le nom de mes invités. Donc je commence par taper Julien. Donc je me dis Julien, je vais tout de suite avoir... Bugier, ben non, vous avez un nom de joueur de foot, parce qu'il y a Julien Weil qui joue au Dortmund, vous avez Draxler qui est un joueur de foot du PSG, il y a Brand qui aussi qui joue au Bayer de Leverkusen.
Oui, donc, des noms à consonance anglophone.
Voilà,
voyez.
Tout ça arrive avant vous, il y a Julianne Moore, bon ça c'est une femme comédienne, il y a Julian Assange, il y a Julian Casablanca, le musicien de The Stroke.
Et puis il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, le nom est inversé, c'est Marcel Julien.
Marcel Julien, voilà, mais quand on tape Julien, en tout cas on arrive, et Julian Barnes, l'écrivain, tout ça arrive avant vous. Alors après, quand je tape votre nom, ce sont les recherches qui sont le plus effectuées vous concernant. Donc il y a taille, donc on veut savoir combien vous mesurez. Combien vous
mesurez. Alors je le dis,
oui, oui,
1m84.
Oui. Après il y a femme, vous êtes mariée.
Absolument.
Vous avez même accordé une interview à nos confrères de Téléstar où vous parliez de votre couple. Voilà.
Oui.
Donc ça intéresse beaucoup les gens, donc mariée, votre âge.
37.
Là, la question est plus compliquée. Après, salaire, je veux le savoir.
Ça dépend des mois.
Ça
dépend des
mois,
parce que j'ai un salaire qui est fixe.
Là, vous allez avoir un gros salaire.
C'est
son mois.
Bon, vous savez, sur le service public, on ne fait pas ce métier pour l'argent. On gagne évidemment beaucoup moins que chez les
d'ailleurs,
dans les chaînes
privées. D'ailleurs, Gilles Boulot, il y avait aussi cette question du salaire qui venait quand on interroge Google. Et alors, il a failli nous répondre, puis... Et il nous a dit autant qu'un gardien de
Ligue 2.
Bon, oui. Après,
Et vous avez cherché.
Le gardien de Ligue 2, ça va de 30, 25, 30 à 100.
Pourtant, quand 80. On présente le 20h de TF1, on est plutôt en Ligue 1.
Ligue
2. Il a trouvé un truc avec une fourchette large.
Oui, bien. Il y a l'attaché de presse qui lui avait fait un petit signe.
Ouais. Et alors après, il y a des questionnements étranges sur Internet. Il y a tatouage.
Oui.
Pourquoi
quelques-uns.
Cette question parce que vous avez des tatouages et vous en avez parlé.
Non, mais il y a un précédent, c'est qu'une fois, il y a un certain temps de ça, j'étais invité chez Maïtena Biraben, sur Canal+, à l'époque, et qui m'avait dit, il paraît que vous avez des tatouages.
D'accord.
Je ne sais pas comment elle avait eu l'info, mais c'est vrai.
On ne vous posera pas la question.
Elle m'avait demandé de les montrer, voilà, ce que j'avais à l'époque refusé, parce que j'estime que c'est du domaine de l'intime.
D'accord. Cheveux. Il y a marqué.
Se voit.
Alors, est-ce que vous
pas besoin de les montrer.
Alors, j'ai cliqué. Alors, figurez-vous, vous ne le savez peut-être pas, que Marie-Claire vous a classé parmi les 10 journalistes les mieux classés de la télé.
Non, quoi
alors,
En coiffure.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Les mieux classés.
Les mieux coiffés, oui. Alors, ses cheveux sont un mix entre les mèches rebelles de Laurent Delahousse et l'effet plaqué de son confrère David Pujadas.
Oui, on est toujours comparé aux autres,
voilà,
hein, quand même.
Hein. Pour se démarquer, il a misé sur la houppette. France 2 est riche en style capillaire. Voilà, ça, c'était un dossier.
Écoutez, vous me l'apprenez.
Un dossier de fond, donc, de Marie-Claire. Alors, bon, beaucoup plus sérieusement, vous êtes là pour nous parler donc, de deux soirées spéciales que vous allez présenter cette semaine, demain et après-demain. Demain, c'est une série de documentaires, Histoire d'une nation, à partir de 21h. On va écouter la bande-annonce.
Avec ce quart de la population française, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui ont leurs racines à l'extérieur du territoire.
Nous avons donc un arrière-grand-père.
Et Jésipe Légitimus.
Il arrive à Paris, premier député noir au monde.
Il y a une autre histoire, une histoire faite de promesses et de trahisons.
Mon père voulait qu'on soit plus français que les Français, la bête peut revenir.
Une histoire où, quel que soit le lieu d'où l'on vient, tout le monde peut se retrouver.
Être capitaine dans l'équipe de France, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Notre histoire.
De 1870 à nos jours, les histoires d'une nation racontées par Roche Dizem. Première partie de ce documentaire événement, mardi soir à 21h sur France 2.
Voilà, donc c'est une série de documentaires, La France racontée par ceux pour qui être français a été toute une histoire, c'est-à-dire ces immigrés qui ont fait la France.
Voilà,
c'est un sujet d'actualité. Hein.
C'est un programme dont je suis très fier de porter, parce que ça fait évidemment un an et demi que la chaîne travaille sur ce projet de série documentaire. C'est effectivement de raconter 1870 à nos jours, avec la voix de Roche Dizem, qui est un très bon narrateur d'ailleurs, j'insiste là-dessus, et qui a été très touché par le projet du film, et par le travail des réalisateurs et des auteurs. Et si vous voulez, c'est vrai que c'est la première fois qu'on raconte l'histoire de France à travers ce prisme des différentes vagues migratoires qui font aussi la richesse de notre histoire, la richesse de notre culture, cette fameuse France plurielle. Donc ça part de 1870, les premières vagues d'immigrés italiens, les Polonais, les Roumains, la colonisation, la décolonisation, et puis les vagues d'immigration plus contemporaine avec les Maghrébins, Marocains, Tunisiens, Algériens notamment.
Mmh. Ça parle aussi des immigrations, mais des vagues de Bretons, d'Auvergnats, oui. toutes les populations rurales françaises qui se retrouvent pas encore assimilées à une utilisation fluente, j'allais dire, de la langue française. Et on voit qu'ils ont eux aussi des difficultés, qu'eux aussi se retrouvent dans une période où ils doivent s'intégrer.
Oui, alors c'est moins le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est assez intéressant ce que vous pointez.
Celui qu'on va voir demain soir, le premier.
À partir de 1870, et puis avant, la France est un pays de territoire, où on est d'abord breton, où on est d'abord normand, où on est d'abord du sud de la France, on est d'abord région PACA, voilà, avec des territorialités et des cultures de territoire très fortes. Et c'est vrai que ça permet aussi de mettre en regard l'immigration qui est venue d'ailleurs par la suite, parce que c'est quoi venir d'ailleurs ? Est-ce que c'est venir de Bretagne ? Est-ce que c'est venir du nord de la France ? Ou est-ce que c'est venir d'Algérie ou de Tunisie ? Voilà. Donc c'est vrai que avant 1870, la France est un pays de territoire, un agrégat comme ça de territoire et de culture, et puis elle devient un État-nation à partir du début du siècle dernier.
Alors je disais que c'était un sujet d'actualité, puisque depuis une semaine, la France se déchire autour des propos d'Éric Zemmour. Il était ce matin l'invité de Patrick Roger et de Cécile Dominibus sur Sud Radio, et écoutez, il a fait allusion à ce documentaire. Écoutez ce qu'il disait.
Demain soir, sur France Télévisions, une grande émission de plusieurs heures qui s'appelle Destin avec un S d'une nation et qui veut faire accroire que la France a été forgée par ses immigrés avec une espèce de grand chef de tribu qui s'appelle le général de Gaulle. Vous voyez, quand vous voyez la bande-annonce, oui, vous avez compris. Eh bien ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une guerre de l'histoire. C'est qu'on veut faire accroire aux Français qu'ils ne sont rien, qu'ils ne sont plus rien et que seuls les immigrés ont fait la France.
Alors, je pense qu'il n'a pas vu.
D'abord,
c'est
il se trompe dans le titre. Ça s'appelle Histoire d'une nation, ouais. Voilà, au pluriel, parce qu'il y a plusieurs histoires.
Il est troublé à cause du titre de son bouquin.
Non, mais je pense qu'il n'a pas vu. C'est évidemment qu'il n'a pas vu, puisque c'est diffusé demain et que le propos n'est pas justement opposé à ce qu'il dit.
Non, je pense qu'il n'a pas vu et il fait référence à un bouquin de Patrick Boucheron, historien de renom, qui avait suscité une certaine polémique dans une France des esprits. Et trois, on va dire ça comme ça, des conservateurs, en tout cas notamment chez Zemmour, et qui racontent les histoires de France. Alors Boucheron remonte plus en arrière que nous, ce qu'on fait demain, et il raconte l'histoire de France à travers les soubresauts de l'histoire. Voilà. Et je pense qu'Éric Zemmour fait aussi référence à ça, mais pour revenir sur ses propos, moi je ne suis pas là pour polémiquer avec Zemmour, nous on est une chaîne citoyenne, une chaîne service public, et on pense que dans une époque comme la nôtre, où il y a des vents mauvais qui soufflent un peu partout en Europe, c'est bien aussi de rétablir, non pas quelques vérités, mais quelques éléments factuels. Oui, l'histoire de France est construite à travers son immigration.
Mais en plus, c'est pas opposé à ce qu'il dit, puisqu'on voit l'assimilation de ces immigrés, justement. Donc c'est son discours.
Oui, parce que lui, il dit aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a plus d'assimilation, il n'y a plus d'intégration.
Ça veut dire l'assimilation? Je ne sais pas, moi, ce que ça veut dire l'assimilation.
C'est exactement ce qui est montré dans le premier épisode qu'on va voir demain, entre 1870 et 1927.
Non, mais comprenez, d'abord parlé d'assimilation, ensuite on a parlé d'intégration.
Non, mais assimilation. Puis... Même vos témoins, les témoins du doc de demain, ils expriment comme ça. Ils sont italiens et ils disent, nous, on est devenus français.
Oui, mais ce que dit Ramsey, par exemple, est très intéressant à un moment dans le documentaire. Parce que l'histoire bégaye de façon permanente. Les années 30, difficile contexte pour les immigrés. L'après-guerre, il faut reconstruire. Mmh. On a un problème démographique en France. Non. Donc on ouvre les frontières, on donne la nationalité française à quasiment un million d'immigrés. Et puis arrive la crise, le milieu des années 70. Giscard, qui était un président plutôt d'ouverture, se referme sur des vieilles idées des années 30. On ferme les frontières et les immigrés qui étaient assimilés, qui étaient devenus des Français, redeviennent à nouveau des étrangers. Et Ramsey dit un truc intéressant, il dit à partir des années fin 70-80, il fallait qu'on passe par la case intégration. Il y a ce mot qui est arrivé à nouveau dans l'espace public, et nous, immigrés ou fils d'immigrés, il fallait qu'on fasse travail, maison, et entre-temps qu'on passe par la case immigration. On a fait de nous des étrangers. Voilà ce qu'il dit.
Enfin, c'est la même chose en 1930, c'est la même chose en 1927,
oui, c'est la même chose dans les années 70. C'est pas la même chose dans la France de l'après-guerre.
Simplement, on a
dans
le recul aujourd'hui.
Est-ce
qu'on a le recul aujourd'hui vis-à-vis des années 70, 80 et des débuts du 20e siècle? On a le recul pour dire que oui, tout cela, les Italiens, les Polonais, ils sont intégrés aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est plus près de la période dont vous parlez, et c'est pas encore fait. Il manque le recul, d'après moi.
Mais parlons de Jean Ferrat, de Modigliani, parlons de Picasso, parlons d'un certain président, pour revenir sur cette polémique sur les prénoms, qui s'appelait Sadi Carnot.
Bah oui, Sadi Carnot.
Vous savez que Sadi a été président de la République française en 1870, et que ce prénom Sadi, c'est un prénom perse. Voilà. À l'époque, personne n'en parlait, ça ne faisait pas polémique. J'observe que Éric Zemmour a un peu une mémoire à géométrie variable.
Lui, il disait la France a plus apporté à ses immigrés qu'eux n'ont apporté à la France. C'est ce qu'il a dit ce matin.
Eh bien,
regardons le documentaire. Parce que
chacun se fera son idée. Après, la culture française est aussi un agrégat de richesses venues d'ailleurs. Moi, je pense à des chanteurs, je pense à des humoristes, je pense à notre tradition aussi culinaire qui s'est enrichie par l'apport de ce qu'ont apporté les vagues migratoires successives.
D'ailleurs, c'est quand même la force de ce documentaire, c'est que vous avez énormément de témoignages, des personnes, des anonymes, enfin des personnes qui ne sont pas connues, des personnes connues, et ça se mélange de façon...
Surtout,
et chacun avec son histoire personnelle, on a Alain Minc, on a vraiment une palette d'intervenants qui sont passionnants.
Et puis raconter du point de vue d'aujourd'hui, c'est ça qui est assez original aussi dans le documentaire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui racontent leur famille, mais qui sont d'aujourd'hui, ce ne sont pas que des images d'archives, qui sont d'ailleurs assez exceptionnelles, certaines ont été colorisées pour la plupart.
Oui, et puis moi ce que je trouve assez fascinant, c'est de remettre au regard de l'histoire et au regard de l'actualité qu'on connaît aujourd'hui, ces soubresauts à chaque fois sur cette question migratoire, et la manière dont c'est aussi parfois instrumentalisé par la classe politique à différentes étapes de l'histoire. Voilà, je trouve que cette mise en perspective sur 4 fois 52 minutes est assez éclairante.
Demain, vous allez avoir... Ça sera quoi le débat? Vous avez qui comme invité? Vous allez débattre de quoi, en fait?
On va pas vraiment débattre, si vous voulez. On va simplement mettre au regard ce qu'on viendra de voir, c'est-à-dire les deux premiers épisodes qui s'arrêtent juste avant les années 60. Et puis on anticipera aussi sur les deux épisodes qui vont arriver le mardi suivant et qui raconteront, grosso modo, la guerre d'Algérie, la décolonisation jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, il y a des moments très forts, il y a aussi, quand je parlais de soubresaut de l'histoire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a cette défiance vis-à-vis de l'immigré, où tout d'un coup, l'immigré qui était jusqu'à présent vu comme une espèce de pardon de le dire comme ça, mais c'était le cas à l'époque, comme une main-d'œuvre bon marché, donc il y avait une forme de bienveillance vis-à-vis des populations immigrées, et tout d'un coup devenu un envahisseur,
celui qui prend le travail
tricheur, avec cette défiance-là. Et puis, avec des moments de grâce. La Concorde, 1998, la France unie, la France blanc-blanc-beurre, le même Jacques Chirac qui disait « le bruit et l'odeur », tout d'un coup s'empare de cette équipe de France pour la valoriser et dire « voilà, c'est aussi ça la France ». Et puis ensuite, le basculement à nouveau, la crise des banlieues, Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle, jusqu'à aujourd'hui, avec cette victoire de la Coupe du Monde, où on ne parle plus. Rendez-vous compte de la France blanc-blanc-beurre. On parle d'une équipe nationale, alors que cette France, cette équipe de France, elle est toujours blanc-blanc-beurre. Voilà. Donc c'est intéressant.
Et qui
de
donc sera le demain et donc demain vous allez poursuivre après le documentaire. Il y aura un débat.
Il y aura plein d'invités. Il y aura. On a voulu garder la philosophie des documentaires avec à la fois des anonymes et à la fois des personnes connues. Donc il y aura par exemple André Manoukian. Il y aura le chanteur de Zebda qui est assez formidable dans le film. Il y aura un jeune homme issu de l'immigration malienne, une jeune femme issue de l'immigration asiatique, parce que c'est aussi une immigration silencieuse dont on parle peu, mais qui vivent aussi cette discrimination parfois au quotidien. C'est ce que nous racontera cette jeune fille. Voilà, on sera.
Alors, on a un auditeur, moi je vous dis ce qu'on reçoit en tweet, qui dit « La propagande, on ne peut pas comparer les Italiens, les Espagnols, les Polonais, les Portugais avec la nouvelle immigration. C'est vraiment prendre les Français pour des cons. »
Et pourquoi ?
Parce qu'il estime que c'est un tweet, donc c'est assez succinct, mais que
faut qu'il regarde parce que y a
que l'immigration n'est pas la même.
Le premier assassinat d'immigrés, c'était donc dans le sud. Ça s'est passé en 1900. Je ne sais plus, 12 ou quelque chose comme ça. Et c'est donc en disant les Italiens dehors. Et donc la police a tiré sur les Italiens. Il y a eu 14 morts. C'est la première fois. Donc ils étaient bien traités comme les Italiens d'aujourd'hui.
Et souvenez-vous, dans les années 30, juste avant-guerre, on le voit dans le documentaire. C'est assez étonnant d'ailleurs par rapport à ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Il y avait une espèce de xénophobie vis-à-vis des femmes roumaines qui étaient à l'époque voilées parce que très catholiques et dont on disait, dis donc, elles sont très catholiques, elles viennent à la messe voilée, elles nous dérangent dans nos convictions, voilà.
C'était en 1893, pardon.
1893, alors... bien. Donc, on voit que l'histoire rebondit de façon permanente.
Le fameux film que la bête meurt dans les années 70 sur cet ouvrier... qui est assassiné, qui est immigré, je ne sais pas si vous avez vu ce film, qui est juste incroyable.
Alors, vous êtes également à l'antenne mercredi, avec une soirée continue également, Prison de femmes, avec un téléfilm, Les Impatientes, qui a été primé d'ailleurs au Festival de La Rochelle.
C'est une mini-série en 3 épisodes. Voilà. Qui est assez formidable et qui raconte l'univers carcéral au féminin. Avec trois femmes que tout oppose et qui se rencontrent dans le huis clos d'une cellule. Voilà, c'est une série très forte dont les trois héroïnes, les trois actrices ont été effectivement
Noémie Lvovsky,
primées à La Rochelle.
Il y a Roxane Potreau, Léonie Simaga et puis Catherine Jacob.
Qui François Morel aussi.
François Morel, absolument. Qui est dans le.
Qui joue. Une matonne,
qui est la baronne. Elle s'appelle la baronne. Vous allez donc là aussi présenter un débat ensuite. C'est un format que France Télévisions souhaite développer. Vous aviez déjà, l'année dernière, ça avait déjà été le cas. Mais là, visiblement, c'est un choix de France Télévisions d'aller vers ce type de soirée.
Oui, ça fait longtemps qu'on a la conviction que ces soirées-là font partie
un peu les dossiers de l'écran.
De l'esprit. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Mais vous avez raison de le dire, parce que c'est une référence, et quelle référence pour un certain nombre de téléspectateurs et téléspectatrices historiques du service public. Mais c'est vrai que voilà, ces débats sont éclairants, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans une société très clivante, dans une société hystérisée, où un buzz chasse l'autre, je pense qu'on a besoin un peu de repères, on a besoin de prendre le temps, d'expliquer, de débattre, de façon sereine, de façon posée, sans...
Vous croyez que c'est encore possible parce que
la
question, et c'est aussi ce que disait Éric Zemmour ce matin, c'est-à-dire que ces débats à la française qu'on nous enviait aujourd'hui ne sont plus possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus débattre, puisqu'à chaque fois, il y a des plaintes, des pétitions, des injonctions à interdire de parler des par exemple, Éric Zemmour.
Il est invité partout, donc je pense qu'il a une capacité à pouvoir s'exprimer qui est assez grande. Oui.
Mais est-ce qu'aujourd'hui le débat est possible? C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que dès qu'il y a une phrase qui sort, d'un seul coup on a une meute, les réseaux sociaux, tout le monde.
Oui, mais justement c'est la responsabilité aussi de nous médias, de nous journalistes, d'apporter du débat apaisé, voilà, et sans forcément éviter les sujets, éviter la controverse, éviter la polémique.
Vous l'auriez pas invité pour le débat de l'histoire d'une nation.
Il aurait pu s'exprimer sur le documentaire. Je crois qu'il s'est exprimé, chacun pourra juger de la réalité des choses. Mais c'est vrai que moi, j'aime faire des débats avec des gens qui ne sont pas des professionnels de l'idéologie.
Donc ça vous aurait gêné de l'avoir?
Non, ça ne m'aurait pas gêné. J'ai déjà des... Vous savez, quand je travaillais à ITL, il y a bien longtemps, Éric Zemmour faisait partie de mes plateaux récurrents, comme Robert Ménard, comme tous ces gens-là. Voilà, donc j'ai déjà travaillé avec eux. Et à l'époque...
Il y a une célèbre scène avec vous.
Et à l'époque, ils n'étaient pas très connus, d'ailleurs, les uns et les autres. Robert Ménard.
Moi, je voulais vous changer un peu de sujet. Vous avez, en juillet, accordé une interview où vous expliquez « Je ne resterai pas joker 10 ans de plus ». Je rappelle que vous êtes donc joker du 20h pendant l'été, d'Anne-Sophie Lapix. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire par là ?
Parce qu'on ne peut pas rester numéro 2 sur cet exercice du journal éternellement. Voilà, maintenant, je m'accomplis dans plein d'autres exercices que sont les débats de société. C'est un credo que j'aime énormément pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et puis parce qu'aussi, à titre personnel et intellectuel, voilà, c'est assez enrichissant de s'intéresser, de donner la parole à des spécialistes, à des anonymes, à des personnalités pour débattre d'un sujet donné. Donc aujourd'hui, j'ai une carte qui est une carte de journaliste présentateur du 20h, mais pas que. Voilà. Donc,
est-ce que ça veut dire que vous attendez là vraiment d'avoir une place de numéro 1 ? Ou est-ce que, comme aurait Harry Roselmack, par exemple, vous pourriez renoncer à être joker pour vous consacrer au magazine ?
Mais je vous réponds dans 3 ans. Ça fait 7 ans que je suis numéro 2 et que je suis joker au 20h. Donc j'ai dit 10 ans, il me reste 3 ans pour réfléchir à tout ça. Voilà.
Quelques petites questions rapides. Qu'est-ce que vous regardez à la télé ?
En général ?
Oui. Qu'est-ce que vous aimez ? Est-ce qu'il y a des émissions que vous ne ratez jamais ou des...
Écoutez, je regarde de moins en moins la télévision, je ne devrais pas le dire, mais je regarde beaucoup les journaux, parce que voilà, ça m'intéresse et que j'aime l'actualité, donc je continue à regarder les journaux. J'écoute beaucoup la radio et je regarde à la télévision beaucoup les documentaires. Mmh. Voilà. J'aime l'exercice du documentaire. D'ailleurs, je pense que c'est un des éléments sur lesquels le service public
doit s'appuyer,
parce que le documentaire, c'est vraiment aussi, c'est une trace dans l'histoire, c'est ce qui restera. Et puis, je pense que expliquer, raconter, c'est aussi notre mission de service public. Et puis des séries aussi.
Des séries. Séries cultes pour vous ?
Il y en a beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup, mais bon, ça date un peu. J'aime beaucoup The Wire, qui raconte les bas-fonds de l'Amérique dans les années 90. Récemment, j'aime beaucoup House of Cards parce que ça raconte la politique de façon très cynique. On pensait que c'était très éloigné de la réalité. On s'aperçoit que parfois la réalité dépasse la fiction. Ouais, voilà, j'aime absolument. Bien ce genre de série.
Gilles ? Non, c'est pour vous dire qu'il est aussi tous les samedis à 14h pour tout compte fait.
C'est vrai, l'émission de conso.
Émission de conso. Et samedi, ils vont parler, on l'a tous vécu, les services après-vente injoignables où on se retrouve avec des factures.
Insupportables sur une machine qui est impossible de joindre un service après-vente.
Vous n'êtes pas la seule, Valérie. Voilà, donc on va vous regarder. Qui marche de mieux en mieux et c'est vrai que ça fait la 4e saison et que samedi, on s'intéresse à cet univers des services après-vente avec un truc assez inédit, c'est-à-dire qu'on a réussi à pousser les portes d'un prestataire au Maroc, vous verrez, c'est assez étonnant.
Et on va regarder ça, surtout demain soir, donc ne pas
appuyez
manquer...
Appuyez sur 2 pour Julien voilà.
Ne pas manquer cette soirée demain, les histoires d'une nation au pluriel, et puis soirée continue également mercredi soir avec le téléfilm très fort à regarder sur ces femmes en prison.
Les impatientes.
Merci Julien Bugier.
Merci.
On se retrouve dans un instant pour nos pronostics.
30 secondes pour convaincre.
Et 30 secondes pour convaincre, absolument.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
De retour avec vous entre 10h et 11h, les médias. 30 secondes pour convaincre. Aujourd'hui, c'est Julien Arnaud.
Sud Radio, le 10h midi. Les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre.
Alors, Julien Arnaud, joker de Gilles Boulot pour le 20h de TF1. Il a gagné 5 fois le grand concours des animateurs. Et depuis la rentrée, il est aux commandes de la tranche 22h minuit sur LCI. Julien, vous avez 30 secondes pour nous convaincre de vous regarder ce soir.
Il faut regarder le grand soir pour plein de raisons. D'abord, l'actualité ne s'arrête pas le soir. Vous verrez qu'il se passe plein de choses. Et puis, c'est un moment de débat, un moment d'explication. Nous, on ne veut pas faire ce qu'on voit sur pas mal de chaînes où ça hurle dans tous les sens et on fait des polémiques pour tout et n'importe quoi. On prend le temps de l'explication, de l'analyse avec d'abord un invité. Ce soir, ce sera Françoise Laborde sur l'enfance maltraitée. Ensuite, un face-à-face. Ce soir, Yves Tréhard face à Françoise Degois sur tous les grands sujets de la journée. Et puis ensuite, ce qu'on appelle le focus, un grand format sur le sujet du jour qu'on prend le temps de vous expliquer avec nos invités. l'actualité pendant l'heure qui suit, et puis les brèves d'actu et de politique avec Chronopila.
Vous avez un petit peu débordé, mais on va vous regarder ce soir, Julien Arnaud, un programme très intéressant, effectivement, où on prend le temps de réfléchir sur LCI. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on regarde à la télévision, Rémi ?
Alors écoutez, ce soir, il y a sur TF1 Camping Paradis, France 2 Take Two, une nouvelle série.
Une nouvelle série, oui, qu'est-ce que c'est ? Enquête en duo, la star et le privé.
Oui, alors voilà, écoutez, j'ai pas vu, mais il y a des critiques positives.
Les sept mercenaires avec France 3 qui continue dans le vintage. Ouais.
Un homme et une femme, vintage sur France 5. M6, L'amour est dans le pré, C8, Hunger Games, et puis TMC, les FIFA Football Awards, qui désignent les trophées des meilleurs joueurs de l'année par la FIFA. Donc c'est du sport en gratuit.
C'est du sport en gratuit, bravo. Et puis alors, sur la TNT, il y a aussi le démarrage.
Je vais regarder dès 17h45.
Voilà, nous avons parlé avec Elsa Fayer.
Exactement, il faut absolument que sur TFX.
Donc, Camping Paradis, moi je dis.
Moi je dis L'amour est dans le pré. Hein.
Alors, donc, en un, Camping Paradis pour Valérie et Rémy. Et puis, L'amour est dans le pré pour Gilles.
Un carton, évidemment.
Take Two en trois.
Eh ben moi, voilà, je vous dirais que ça sera un homme et une femme en trois. Et
moi, je vous dirais que ce sera le FIFA Football Awards en trois.
Oh non, ça va être un flop. Je suis prêt à parier.
Bon, je crains que vous ayez raison, Gilles.
Je pense que ça va faire moins de 800 000, moins de près.
Moins de 800 000, c'est pas mal. Hein.
Ouais, ça va faire 400 000. Hein.
c'est la moitié. Hein, donc vous, le moins, c'est la moitié.
Mais je mise, c'est comme la roulette, je mise sur le 8, sur le
4. Camping Paradis devant L'amour est dans le pré, voilà. Voilà.
Ouais, Take Two, j'ai une petite hésitation.
Mais non, Valérie, voyons.
Vous ne pensez pas que cette nouvelle série, non. Bon. Allez, on fera les comptes demain. Bonne journée à tous. On se retrouve, nous, dans un instant pour commenter l'actualité. On va parler de ces buzz. Je l'ai dit un petit peu trivialement tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un, j'ai dit un con, mais pas forcément, ou un abruti, j'aurais pu dire, dit quelque chose d'un petit peu scandaleux, d'un seul coup, la machine à buzz s'emballe. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur Sud Radio.